Gérard Tétart, en 2007, vous étiez ici à Radio Vatican et à l'époque, vous étiez président de la communauté nouvelle Fondatio. Nous sommes en 2013 et aujourd'hui, vous êtes délégué pour la France du comité d'orientation européen Ensemble pour l'Europe. Vous pouvez nous dire que s'est-il passé pendant ces 5 ans pour vous, Gérard Tétart ?
Merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'il y a 5 ans, je quittais la présidence de la communauté après 17 années. Je me suis engagé dans 2 directions. L'une, c'est la communion des communautés à travers la fraternité catholique qui rassemble des communautés charismatiques dans le monde entier et je représente l'Europe du Nord dans le comité mondial.
La communion des communautés.
Oui, et Ensemble pour l'Europe, c'est un rassemblement de 250 communautés en Europe qui désirent travailler pour donner une âme à l'Europe. Et puis, je travaille aussi dans d'autres rassemblements en France pour aider les responsables à être en communion les uns avec les autres et les communautés en communion les unes avec les autres. Ça, c'est une première direction de ma mission. Et la deuxième, c'est lié à mon charisme de gouvernant. J'ai appris à gouverner et donc je me mets au service de plusieurs communautés. Et là, je travaille pour les aider dans leur manière de gouverner. Donc soit par des formations, soit par un travail avec les équipes, comme un consultant peut le faire dans une entreprise. Mais ils apprécient dans le sens où j'apporte quelques méthodes de gouvernance, mais aussi j'essaie d'avoir un immense respect de leur charisme propre. Donc ce sont les 2 grandes directions que j'ai données à ma mission aujourd'hui. Et au milieu de ça, l'année dernière, j'ai édité 2 livres.
Le premier
s'appelle « Quelle âme pour l'Europe ?», qui est justement un livre qui raconte l'histoire et les objectifs d'Ensemble pour l'Europe.
Alors, Ensemble pour l'Europe, de quoi s'agit-il ?
C'est né un peu à l'appel de Jean-Paul II en 1998. Sur la place Saint-Pierre, il avait rassemblé les communautés nouvelles et mouvements. Et il leur a demandé de travailler ensemble. Alors, les responsables, que ce soit Chiara Lubich, Andrea Riccardi et d'autres, se sont rassemblés et se sont dit « Mais comment continuer ?» Et comment vivre cette communion? Et alors, ça s'est cherché au début. Et puis, il y a eu la signature en Allemagne de la déclaration d'Augsbourg qui traite de la justification. Et là, il y avait bien entendu de nombreux protestants allemands. Et ils se sont dit, mais peut-être nous avons à travailler ensemble. Et en rentrant vers un lieu de rassemblement, les responsables m'ont entendu une émission où le cardinal Cassidy, qui était alors le président du Conseil pour l'unité des chrétiens, qui dit « Nous avons fait notre travail, maintenant aux laïcs de faire le leur ». Et les responsables, entendant ça à la radio, ils se sont dit, juste en démarrant une rencontre de responsables, ils se sont dit « Mais il faut que nous prenions nos responsabilités ». Et alors, c'est décidé une communion, non seulement de mouvements catholiques, mais de mouvements catholiques et protestants, auxquels se sont adjoints progressivement des orthodoxes.
Et aujourd'hui, vous êtes 250.
250, ça ne s'est pas fait en un seul jour, mais rapidement, dès 1999, les mouvements se rassemblant se sont dit « Mais cette communion, à quoi elle est ordonnée ? Une communion pour elle-même va tourner en rond et disparaître. » Et ils se sont dit « Mais et si c'était pour l'Europe ? Pour ce continent européen et en un sens pour la société européenne. Et c'est une manière pour les chrétiens, ces 250 communautés, de se situer à la jointure des enjeux de société. Et c'est comme ça que c'est devenu Ensemble pour l'Europe, mais on pourrait très bien décliner Ensemble pour l'Afrique ou Ensemble pour l'Amérique latine. Et donc, les enjeux que nous travaillons, les défis qui sont les nôtres, ce sont à la fois des défis d'unité, la devise de l'Europe, c'est l'unité dans la diversité. Eh bien, d'une certaine façon, quand nous sommes des chrétiens travaillant en Église, on parle souvent de l'unité dans la diversité. Donc il y a là quelque chose qui se met au service et qui aide les chrétiens de ces communautés à faire, comme dit Benoît XVI, à ne pas se retirer de l'histoire. Nous participons des enjeux de ce monde, de l'histoire d'un continent qui se construit, d'un processus européen qui a été initié par des chrétiens, que ce soit de Gasperi, Adenauer ou Schumann, ce sont des chrétiens. Et d'ailleurs, Schumann disait « Je n'aurais pas fait cette Europe si je n'avais pas vécu cet élan chrétien ». Et donc, nous travaillons année après année sur ces enjeux et que nous exprimons en forme de « oui ».
C'est ça, il y a les sept « oui ».
Les sept « oui ». Le « oui » à la vie, notamment le début et la fin de vie, là où il y a des fragilités, des vulnérabilités. Le « oui » au couple et à la famille, et Dieu sait si c'est un enjeu. La famille, on le voit dans mon pays, la France aujourd'hui. Oui à la création, donc le travail au niveau de l'écologie. Oui à une économie au service des besoins de l'individu et de toute l'humanité. Oui à la solidarité avec les pauvres et les défavorisés. Un enjeu fantastique. L'Europe est un continent riche, mais qui a quand même beaucoup de pauvres. Oui à la paix, et notamment dans la foulée de l'esprit d'assises qu'a initié aussi Jean-Paul II. Et oui à la responsabilité envers toute la société. Donc c'est autour de ces oui-là que nous travaillons, et puis de l'unité. Quand nous disons il faut que ces peuples soient frères, comme disait Jean Monnet, nous unissons des peuples. Eh bien, Ensemble pour l'Europe veut travailler à l'unité des peuples. On voit bien qu'il y a des nationalismes rampants dans différents pays.
En Grèce, en Hongrie.
Et donc, comment travailler à l'unité de ces peuples? Eh bien, les communautés, en devenant plus sœurs, je pense, peuvent donner un élan au peuple pour devenir plus frères. Voilà l'enjeu
d'ensemble pour
l'Europe. Et concrètement, nous avons fait un rassemblement à Stuttgart en 2004. Il y avait 10 000 personnes et 100 000 en relais satellite dans une centaine de villes d'Europe. Et en 2007, nous avons fait un autre rassemblement à peu près dans le même format. Ensuite, en 2009, c'était un rassemblement par pays pour essayer que l'intuition descende plus près des acteurs dans les pays et des communautés. Et puis, en 2012, nous avons fait un rassemblement à Bruxelles. Nous voulions parler dans la salle du Parlement pour faire résonner une parole de chrétien là où se jouent ces enjeux pour l'Europe, là où se discutent les lois. Le but était de faire résonner notre parole dans la ville,
de l'Europe,
qui est Bruxelles. Et nous étions en relais satellite également avec 150 villes d'Europe pour signifier aussi l'unité avec un rassemblement majeur à Bruxelles et une diversité de rassemblements dans les pays, avec chacun travaillant l'enjeu qui lui paraît le plus important dans le moment donné.
Et donc votre livre « Comment donner une âme à l'Europe » raconte ce que vous êtes en train de dire ?
Oui, le premier chapitre traite des racines chrétiennes de l'Europe. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été retenu dans la Constitution. Pourtant, c'est un fait historique que le christianisme a influencé le devenir de l'Europe. Il y a des saints patrons de l'Europe. Il y a, bien entendu, plus près de nous, la construction de la communauté européenne qui ont mis en commun le charbon et l'acier pour commencer, qui servaient à faire la guerre et qui ont été mis ensemble dans le but de construire la paix. Un peu pour paraphraser Isaïe, au lieu de faire des armes, eh bien, on fait des socs de charrue avec l'acier. L'Europe est quoi ? C'est un processus conçu sur trois pieds. La réconciliation franco-allemande, quand même après Auschwitz, ce chaos-là, comme disait Jean-Paul II, le Golgotha de l'humanité, on n'a pas été plus loin dans l'horreur. La réconciliation, le partage, et puis bien sûr, quelques règles institutionnelles qui parfois prennent trop d'ampleur et qu'on est parfois trop préoccupé de la courbure des concombres par rapport à des enjeux plus importants. Donc l'Europe peut apparaître comme technocratique, mais il faut bien aussi quelques règles. Et nous disons, l'Europe doit être économique, bien entendu. L'Europe doit être politique, bien entendu, et encore davantage. Dieu sait si elle patine sur ces plans-là, mais l'Europe doit être aussi spirituelle. Et c'est en cela qu'Ensemble pour l'Europe intervient. Donner une âme à l'Europe, travailler les enjeux spirituels, notamment la fraternité, essayer de donner une parole prophétique, d'avoir un horizon et de donner un élan. Parce que je pense qu'une partie de la crise de l'Europe aujourd'hui est liée au fait qu'elle traverse une crise spirituelle. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous voulons travailler et donner une espérance nouvelle aux citoyens européens, donner une passion à l'Europe, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes.
Parce qu'on le voit, le danger devant les difficultés, c'est le repli sur soi.
D'abord, vivre son christianisme seul, c'est politiquement correct, mais ça n'est pas prophétique. Prophétisme, c'est de vivre en chrétien, en communauté, mais ces communautés qu'elles puissent aussi vivre en communion les unes avec les autres. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est qu'on voit bien quand on travaille avec les amis allemands, italiens, etc., qu'on traîne encore des tas de clichés les uns sur les autres. Donc il nous faut traverser tout cela. Et pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à travailler les uns avec les autres, il faut se connaître. Comment l'Europe peut-elle retrouver sa jeunesse, sa vitalité?
Parce que les racines sont là, justement.
Les racines sont là, mais encore faut-il le vivre et redonner une vision prophétique, développer un langage d'horizon et redonner une espérance. Eh bien, nous devons travailler en lien avec tous ces enjeux et avec tous ces peuples et ces personnes qui croient à l'Europe, parce qu'aucun pays ne pourra s'en sortir seul. Les problèmes sont si graves qu'il faut vraiment retrouver l'espérance, mais la retrouver ensemble. C'est comme ça que l'Europe pourra retrouver sa force, son dynamisme, sa jeunesse, et jouer le rôle qu'elle a à jouer dans le monde, parce que l'Europe reste la première puissance économique mondiale. Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle y croit?